Père François Marot, bonjour, ravi de vous retrouver sur nos ondes de Radio Maria France pour cette dernière émission de la saison.
Oui, merci. Eh bien, moi aussi, je suis ravi. Voilà.
Et vous allez inviter quelqu'un qualifié hein, pour parler de la liturgie. Elle a vivé aussi la liturgie, mais la liturgie directement en rapport aussi avec le ciel, où elle se célèbre, la liturgie sans fin, c'est Benoît Rancurel hein, de Notre-Dame du Lot.
Voilà. Voilà, c'est la vénérable Benoît Rancurel qui est la voyante qui a vu la Vierge ici. Donc c'est un sanctuaire qui est reconnu en particulier depuis 2008 par le Saint-Siège. Voilà, donc c'est devenu un sanctuaire maintenant assez très... Enfin, ça a toujours été merveilleux, mais c'est vrai que ça prend de l'ampleur maintenant. Il y a de plus en plus de monde. Et on peut que s'en réjouir, parce que c'est vrai que le message de Benoît est vraiment très beau. Le lieu est merveilleux, mais la personne encore plus. Et voilà, et on peut justement, quand on est pèlerin ici, c'est presque des vacances, quoi. C'est les vacances spirituelles, parce qu'on marche tout autour de ce lieu magnifique, en moyenne montagne, là, à quelques pas de la... ville de Gap, mais carrément en montagne, niché dans un endroit très beau, très doux. Et voilà, et Benoît, on la suit depuis ses premières apparitions en petite bergère, humble petite bergère qui vient de perdre son papa, qui est très attristé, qui était obligé d'aller travailler, qui ne peut plus aller à l'école. On est en 1664 et eh bien, la Vierge va la... Alors, il y a encore sa maman et ses petites sœurs, mais voilà, à l'époque, il n'y avait pas d'autre solution quand on était orpheline de papa que d'aller travailler. Voilà. Et donc, je voudrais vous parler donc un petit peu, parce que c'est un monde. Et la Sainte Vierge, elle a accompagné pendant 54 ans, donc c'est un record. Je ne sais pas si elle... les livres des records dans l'ordre religieux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces très nombreuses années où la Vierge Marie l'accompagne, ainsi que Saint Joseph, les saints anges dont on va parler, le Seigneur qui lui apparaîtra aussi sur la croix, lui montrant tout ce qu'il a souffert par amour pour nous. Donc, cette personne va être... accompagnée d'une façon très très exquise. Hein. La Vierge va faire son éducation spirituelle et ça va devenir une grande... elle qui savait à peine lire, à peine écrire, ça va devenir une... je ne dis pas un père de l'Église, mais une mère de l'Église, hein, une personne très étonnante. Alors pour situer un petit peu son rôle et sa mission, nous sommes en 1664, c'est le règne de Louis XIV qui est en train de ferrailler contre une hérésie redoutable. Après avoir tenu à distance le protestantisme, d'une façon un peu musclée, reconnaissons-le, mais enfin bon, c'était comme ça à l'époque. Hein. Voilà, en tout cas, c'était la façon dont le roi Louis XIV avait tenu à distance le protestantisme, qui effectivement menaçait l'Église, reconnaissons-le. Je rappelle quand même que Martin Luther a rejeté pratiquement tous les sacrements, hein, y compris la messe, gardant pratiquement que le baptême et la parole de Dieu, mais une parole de Dieu un peu relue à sa façon. Donc il n'y a plus de prêtre, il n'y a plus de sacerdoce, il n'y a plus de pape, il n'y a plus de consécration religieuse. Il n'y a plus de confession, etc. Bon, enfin, tout le monde connaît cette... voilà, on a beaucoup d'estime, de respect, d'amitié même pour les protestants, mais on est obligé de reconnaître quand même que le protestantisme fait pratiquement table rase de toutes ces sacrements merveilleux que le Seigneur nous a donné de haute lutte, puisque les sacrements, c'est vraiment le fruit de sa passion, quoi. Le sang et l'eau qui jaillit de son cœur, c'est l'eau du baptême, c'est le sang de son amour, c'est le sang de l'Eucharistie. Alors, une autre hérésie se fait son avait fait son apparition. Cette fois-ci, de façon encore plus subtile, si j'ose dire, puisque c'est le jansénisme. Jansénius, donc, part du... comme Luther, d'ailleurs, puisque Luther était un moine catholique au départ, mais bon, c'était très vite... avait pris... c'était distancé par rapport à l'Église. Hein, on était sortis, donc les choses étaient claires, si j'ose dire. Alors que là, le jansénisme, c'est un cancer qui s'alimente depuis le centre de l'Église, avec beaucoup d'atouts. Hein, on n'attrape pas les mouches avec le vinaigre, et les atouts, et la preuve que le jansénisme avait beaucoup d'atouts, c'est que un grand penseur comme Blaise Pascal avait des sympathies jansénistes. Donc c'est quand même pas rien. Hein. Blaise Pascal est quand même un des plus grands penseurs chrétiens de l'histoire de l'Église, disons les choses. Eh bien, il avait des sympathies, vous voyez, pour Port-Royal, pour Jansénius. Et pourquoi avait-il des sympathies? Parce que effectivement, le jansénisme prétendait un petit peu, d'ailleurs, comme le protestantisme à ses débuts, opérer une réforme de l'Église qui en avait besoin. Toutes les époques, le dernier concile de Vatican II avait rappelé justement que l'Église en tant que telle n'avait pas besoin d'être réformée, puisqu'elle est, en tant qu'elle a été fondée par le Christ, elle est parfaite, hein, c'est une société absolument parfaite, émanant du cœur de Jésus, dont Jésus est l'unique maître et seigneur, hein, le pape est son vicaire, son serviteur, mais l'Église est composée d'hommes et de femmes, j'allais dire comme vous et moi, qui eux, n'est-ce pas, sans cesse ont besoin de se réformer, donc de se convertir. Voilà, donc le jansénisme apparaît comme une puissance de conversion. Comme une puissance de conversion, mais très vite, les moyens employés ou proposés tout du moins par Jansénius et consorts vont apparaître comme des moyens qui ne sont pas conformes à l'Évangile. Quels étaient ces moyens? Eh bien, c'était le rigorisme. Vous hein, voyez, le rigorisme, l'homme est pécheur, le péché l'a tellement corrompu, l'a tellement atteint au plus profond de son être, vous voyez, qu'il n'est que corruption. Voilà. Donc, comment voulez-vous que la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ puisse s'enraciner? Et s'il n'y a plus de... ça n'a plus rien pour que cette grâce atterrisse, si j'ose dire, hein, s'enracine, s'incarne. Hein. Voilà. Donc l'erreur monumentale du jansénisme qui a été condamnée par l'Église, eh bien c'était cela. Hein, c'était que le péché corrompait à ce point la nature humaine qu'elle était dans une complète déchéance. Et que, en dernière analyse, le salut ne pouvait survenir sur cette corruption que comme une espèce de prédestination. Donc Dieu décidait que, bon, ben, quand même, certains pouvaient aller au paradis. Je sais pas trop comment. Mais en tout cas, c'était quelque chose de totalement, le déploiement de l'organigramme du jansénisme est très vite apparu comme quelque chose de complètement à l'opposé de ses prétentions d'origine, c'est-à-dire de réformer les chrétiens. Alors Benoît, avec sa sœur jumelle, il n'avait pas de sœur jumelle, mais elle avait deux petites sœurs, mais sa sœur jumelle spirituelle, qui sera Sainte Marguerite-Marie, avec Jésus qui apparaît sous la forme du Sacré-Cœur, vont être si le roi Louis XIV, et soutenu bien sûr par le pape de l'époque, ont été fer de lance contre le jansénisme, les saints vont être ceux qui vont remettre, on peut dire, l'Église à l'endroit, c'est-à-dire, oui, le péché est grave, oui, le péché offense gravement Dieu, n'est-ce pas, et surtout l'homme, hein, le péché nous fait surtout du mal à nous. Oui, le péché est une injustice à l'égard de Dieu, c'est injuste de pécher, voilà. Oui, Dieu est, d'une certaine façon, blessé dans son impossibilité de nous donner sa grâce et son amour, mais non, la nature humaine n'est pas complètement corrompue, le sanctuaire le plus profond de l'homme qu'on appelle l'âme ou son cœur reste, sinon ressemblance, mais image de Dieu, prête à accueillir la grâce de celui que Dieu va nous envoyer, qui est son propre Fils, n'est-ce pas ? Et en qui, c'est-à-dire dans la personne à la fois humaine et divine du Christ, la justice et l'amour vont pouvoir s'embrasser et à ce moment particulier de notre rédemption sur la croix. Vous voyez ? Donc, le choix qu'avait fait le jansénisme de mettre en avant l'horreur du péché et la quasi-impossibilité d'être renouvelé, hein, de fond en comble dans notre nature par la grâce, puisqu'on était totalement corrompu, l'Église remet vraiment les choses à l'endroit, hein, par le rappel que Benoît, Marguerite Marie, Saint Jean-Eudes et tous les grands saints de cette époque, avec le père de Montfort, qui au XVIIIe siècle continuera de prêcher la miséricorde en même temps que l'exigence de justice, voyez, justice et miséricorde s'embrassent sur la croix. Voilà. On ne peut pas faire le choix. Vous savez que d'ailleurs que le mot hérésie vient du grec hérésein qui veut dire choix. Je choisis un aspect au détriment de l'autre. Voyez. Donc l'Église nous propose au contraire une synthèse. Hein, et la vraie synthèse, il n'y a que les saints qui la font, S-A-I-N-T, vous voyez. Et le saint par excellence, c'est Jésus, bien sûr, vrai Dieu et vrai homme. Sur lui, sur sa personne humaine, eh bien, il va porter l'injustice du péché. Et sur sa personne divine, puisque c'est la seule personne qui est humaine et divine, va nous donner le pardon, va nous donner au travers de son cœur ouvert sur la croix, le Sacré-Cœur, vous voyez, déjà ouvert sur la croix. On n'a pas attendu le XVIIe siècle pour connaître que Dieu, savoir, croire que Dieu nous aime. Eh bien, c'est Marguerite Marie, c'est Benoît Trancurel, c'est Saint Jean-Eudes, ce sont tous les grands saints du Sacré-Cœur, les missionnaires de la miséricorde qui vont nous le redonner. Et c'est dans cet esprit-là, justement, que la mission de l'humble petite bergère du Lot, hein, L-A-U-S, Lot, qui, voilà, dans lequel, d'où je vous parle en ce moment, je suis sur en haut d'un chemin qu'on appelle le col de l'ange, où Benoît a été traîné par un mauvais ange, un garnement angélique qui l'a bousculé de façon très, très méchante. Mais, rassurez-vous, les saints anges qui sont toujours dominateurs ici, par leur bonté, l'ont raccompagné chez elle tout en douceur. Voilà. Le bon Dieu disant à ce moment-là à Benoît, mais ne sais-tu pas que je suis en toi, hein, par l'amour, puisque Benoît était une très fervente aimante, amoureuse de Dieu, et que moi qui suis en toi, il suffit que tu ordonnes, n'est-ce pas, au nom de Jésus, mauvais ange qui m'avait traîné ici, ramenez-moi chez moi. Eh bien, il te ramènera immédiatement chez toi, car il m'obéit. Voilà. Je lui ai permis de te maltraiter pour te montrer à quel point, n'est-ce pas, il va m'obéir. Il semblait à un moment te dominer. Eh bien, non. Tu vas faire l'expérience d'une domination infiniment plus efficace et plus belle. Hein, c'est la souveraineté de l'amour de Dieu. Voilà, j'ai voulu situer donc tout d'abord cette personne, cette humble personne, dans le contexte grandiose de l'époque, hein, qui était un combat spirituel, comme à toutes les époques. Vous savez que l'Église est régulièrement, encore aujourd'hui, hein, je pourrais en parler d'autres fois, soumise encore à des tentations hérésiarques. Hein. Voilà, j'aimerais aborder ces questions pour montrer que jamais l'Église n'est totalement à l'abri de ces tentations. D'ailleurs, saint Augustin s'en réjouissait à son époque parce qu'il disait « Heureusement qu'il y a ces tentations hérétiques, sinon les chrétiens, bon à l'époque il n'y avait pas catholiques et protestants, mais sinon les catholiques risqueraient de s'endormir, de ne plus combattre, voyez ?» Et il est entre les mains de Dieu les hérésies, les tentations, etc. C'est une bénédiction parce que ça nous permet de nous enraciner, un peu comme un arbre, voyez, qui est secoué par la tempête. Il faut qu'il s'enracine encore plus dans la terre, voyez, pour ne pas rompre, voyez. Voilà. Donc, cette hérésie extrêmement sournoise qui avait été capable d'enthousiasmer quand même un Blaise Pascal, ça vous montre la puissance et la subtilité hein, de la chose, eh bien, voilà, Benoît va participer, voilà comment le bon Dieu va chercher à la fois les rois, les princes, les puissants, mais pas que, vous voyez. Et je pense que sans la victoire est peut-être plus radicalement remportée quand elle est menée par les petits et les humbles. Car apprenez de moi, dit Jésus, que je suis doux et humble de cœur. Et donc Jésus, déjà lui-même, a remporté toutes les victoires contre les tentations du démon, hein, qu'il a subi lui-même, hein. Non seulement dans le désert, pendant les fameuses tentations qu'on médite au début du carême, mais aussi tout au long de sa vie. Tentation pharisaïque, tentation zélote, de faire de lui un espèce de Barabbas qui remporterait la victoire par les armes contre les Romains, etc. Vous voyez ? Donc Jésus a été sans arrêt confronté à toutes les tentations possibles et imaginables. On essayait à chaque fois de le récupérer. Vous voyez ? Et on voit très bien aujourd'hui, d'ailleurs, comme à toutes les époques. Alors l'hérésie, je reviens à l'hérésie à la mode de Benoît, qui était le jansénisme. Ce que Benoît va vivre va porter la cognée, si vous voulez, à la racine de ce jansénisme, parce que la Sainte Vierge va la chouchouter, si j'ose dire, pendant 54 ans. Elle va être remplie du bonheur de pouvoir approfondir en la présence de Marie, n'est-ce pas, de la douceur, de la miséricorde du cœur de Jésus. Une des portes d'entrée qui va révolutionner complètement ce lieu de Notre-Dame-du-Lot, parce que des milliers, des milliers, des milliers, des centaines de milliers de gens viendront très tôt ici. Là, on en est à quelques milliers l'été, c'est déjà très beau, mais à l'époque de Benoît, n'est-ce pas, très rapidement, parce que l'archevêque d'Embrun a très rapidement reconnu l'authenticité des apparitions ici, parce qu'il y a eu beaucoup de miracles, et il y en a encore beaucoup d'ailleurs, eh bien, des centaines de milliers de gens venaient ici, d'Italie, de partout, de toute la région, qu'on dit aujourd'hui PACA, hein, de Marseille, etc., par dizaines et centaines de milliers. Pourquoi ? Pour se convertir. Les jansénistes avaient persécuté les prêtres qui étaient ici et qui confessaient, parce qu'ils disaient « c'est pas une confession qui peut te convertir ». Voyez, le sacrement de la conversion par excellence était méprisé par les jansénistes, voyez, comme quelque chose de dérisoire. Les gens étaient interdits de communier. Vous êtes indigne, vous serez toujours indigne. Benoît a souffert le martyr parce que les jansénistes ont eu tellement d'influence à un moment donné qu'ils ont pris ils se sont invités à Notre-Dame du Lot et ils ont pris les rênes de Notre-Dame du Lot. Ça a été un des moments où Benoît a le plus souffert, voyez, en union avec son Jésus. Alors, lorsqu'elle n'a pas quitté le Lot, elle a résisté. Une résistante. Un bel exemple pour nous aujourd'hui, chers amis, soyons des résistants face à toutes les formes d'erreurs, autant politiques, car il y en a, et non des moindres, que religieuses, car il y en a, et non des moindres. Elle a résisté, elle est restée, ici, au Lot, elle a prié, elle a souffert, mais elle a vaincu, car la victoire est toujours à la résistance. Prenons la comparaison de tous les résistants religieux qu'on a appelés des martyrs. Pendant 3 siècles, les chrétiens ont été des résistants. Ils ont résisté au paganisme, ils ont résisté à l'arianisme, ils ont résisté à toutes les hérésies. Récemment, au Mexique, les Cristeros ont résisté. Ils ont été massacrés, abandonnés de l'Église à l'époque. Ce n'était pas bien d'ailleurs. Bon, soyons des résistants. Je prends des risques en disant ça, mais j'assume. J'ai le désir moi-même d'être un résistant. Je peux me tromper aussi, hein, je ne me trompe pas pour plus que je ne suis. Mais quand l'erreur est obvie, il faut résister. Et c'est ce qu'a fait Benoît. Alors les anges l'ont gâté, vraiment. Vous voyez, alors, par exemple, je vous donne un passage, alors là, on va revenir en pleine liturgie, vous voyez. Nous sommes à Noël 1700. Une trentaine d'années, 1664, vous voyez, c'est ça, après les tout début des apparitions. Et là, c'est la messe de minuit, et elle voit les anges en procession, elle voit les anges chanter le Gloria in excelsis Deo, et puis elle rentre dans la basilique, et les anges lui disent, nous sommes heureux parce que nous avons assisté tout à l'heure à la messe, nous avons assisté à la messe, et nous sommes heureux car la messe rend le ciel heureux comme tu ne peux pas t'imaginer. Vous voyez, c'est tout à fait beau. Et puis, comme disait Jésus aussi, une seule âme qui se convertit rend le ciel plus heureux. Eh bien, tous les gens qui viennent se confesser maintenant, qui se convertissent, qui retrouvent la pureté de leur cœur, de leur corps, etc., nous rendent heureux. Et alors, les anges étaient là en procession, elles chantaient, alors elles suivaient les anges en disant « Mon Dieu, à moi aussi, faites-moi miséricorde, mon Dieu !» Alors les anges lui disent « Oui, oui, Benoît, Dieu te fera miséricorde, pourvu que tu restes toujours dans la foi, l'espérance et la charité. » Et les anges continuaient en chantant, flambeaux à la main, Benoît s'inscrivant dans cette belle procession et chantant à son tour, n'est-ce pas, oui, béni, béni soit, alors elle chantait ça avec les anges, béni soit le Père éternel qui a choisi ce saint lieu pour la conversion des pécheurs. Béni soit tous ceux et celles qui viendront pour l'adorer, pour l'aimer, et pour réaliser ce miracle, le miracle des miracles, vous voyez, qui est d'être complètement renouvelé, contrairement à ce que cette impossibilité que les jansénistes suggéraient. Vous voyez, et ça, c'est l'œuvre du démon. Hein. Le démon n'a de cesse de nous dire, c'est pas la peine, mon ami. Tu peux faire tous les pèlerinages que tu veux. Tu peux aller te confesser 50 fois si tu veux. Tu racontes toujours les mêmes bêtises. Tu fais toujours les mêmes péchés. Tu peux aller à toutes les messes que tu veux, communier toute la journée si tu veux. Ça changera rien. Tu seras toujours un pauvre type, un pauvre mec, une pauvre fille, un pauvre pécheur. Et tu n'iras jamais au paradis. C'est ça l'œuvre du démon, tu vois. Et voyez la gravité. Voyez la gravité de cette hérésie. Voyez la gravité de cette hérésie. Alors aujourd'hui, massivement, on est dans une autre hérésie. Mais je ne veux pas la développer aujourd'hui. J'aimerais un autre moment, si Dieu me prête vie, mais il n'y a pas de raison. Et puis si nos amis de Radio Maria me prêtent encore leur antenne. Bon, il n'y a pas de raison, je suis pas un mauvais garde. Bon. Mais il y a une autre hérésie aujourd'hui. Hein. Je la résumerai dans une chanson. Je ne chante pas très bien, mais je vais vous la chanter, vous la reconnaîtrez. Hein. Je crois que c'est Michel Polnareff qui l'a chantée. C'est pas par hasard, hein. C'est dans les années post-68. Hein. L'hérésie et la folie dans l'Église à cette époque. Mais on n'en est pas totalement sorti. Nous irons tous au paradis, etc., etc. Les prostituées et leurs proxénètes, etc. Bon. Vous connaissez la chanson. Nous irons tous au paradis. C'est de paradis au rabais. Paradis au rabais. Bon, t'as une tendance homosexuelle, ben très bien, assume-la. Vas-y, lâche-toi, t'iras au paradis de toute façon. Voilà, alors, on va même jusqu'à aller chercher cette phrase merveilleuse, cette parole merveilleuse de saint Augustin, encore lui, aime et fais ce que tu veux. C'est vrai que saint Augustin a dit cette parole, mais faut pas la sortir de son contexte. Vous voyez, aime. Quand on aime Jésus, on ne peut pas être impur en même temps. Vous voyez, Jésus dit, n'est-ce pas, celui, mon vrai disciple, c'est celui qui obéit à mes commandements. Mais les commandements de Dieu, les fameux 10 commandements dont on voudrait se débarrasser aujourd'hui, n'est-ce pas, Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse. Je suis venu au contraire la perfectionner. N'est-ce pas ? On vous a dit, tu aimeras ton prochain. Moi, je vous dis, aimez même vos ennemis. Vous voyez ? On vous a dit, ne convoite pas l'épouse de ton voisin. Moi, je vous dis, si tu simplement regardes avec concupiscence l'épouse de ton voisin, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. Et c'est la vérité qui nous libère. Ce n'est pas les demi-mesures. C'est pas de vouloir à tout prix plaire au monde en se disant « Oh là là, si jamais je dis des trucs comme ça, il n'y a déjà pas beaucoup de monde dans l'église, il n'y aura plus personne. » Ben, je suis désolé. Jésus, quand il prêche, quand il dit « Si tu regardes une femme et que tu... » Eh bien, il aurait pu dire « Non, 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 les gars, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Oh non !» Voyez ? Non, non. Jésus est pas venu pour plaire, pour aller dans le sens de nos passions, où il y a une seule passion dans le sens de laquelle il nous encourage, c'est l'amour. Mais un amour pur, un amour éclairé, un amour qui se laisse éclairer par sa parole, par ses commandements. Jamais on ne peut revendiquer un commandement de Jésus dans la faveur, en faveur de l'impureté, en faveur de quoi que ce soit qui soit contre l'amour pur, unique d'un homme et d'une femme pour toujours. C'est le fameux sacrement du mariage qu'aujourd'hui on voudrait changer parce que ce serait plus au goût du jour. Hein, on voudrait permettre, j'entends ici ou là, certains théologiens plus ou moins mondains dire « ça ne marche plus ». J'entends aujourd'hui des grands théologiens, soi-disant, qui sont conseillers de la démarche synodale de l'Église qui est en Allemagne, qui nous disent, j'entends, ils l'écrivent, l'enseignement de l'Église concernant l'IVG n'est plus adapté. L'enseignement de l'Église concernant la contraception n'est plus adapté. Il faut recontextualiser Humanevitae de Paul VI. Je l'entends, ça. Vous ne l'entendez pas, chers amis ? Vous ne l'entendez pas autour de vous aujourd'hui ? Y compris dans l'Église, ce discours ? Je ne dis pas que c'est le discours du pape, hein, ni de tous les évêques. Mais on l'entend. Attention. On l'entend. Alors, là, vie de Benoît, et pour moi, pour ceux qui connaissent un petit peu cette vie merveilleuse, une cure de jouvence, si on peut dire, une cure de désintoxication de toutes les fausses fake news, comme on dit aujourd'hui, les fausses bonnes nouvelles, et où on se replonge vraiment dans la pureté de l'Évangile, dans la pureté des sacrements, dans la pureté du désir profond que chacun nous portons en nous de nous convertir, qui rencontre, ici ou ailleurs, je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire ailleurs, bien sûr, mais c'est parce que je vous parle de ce lieu que je me permets d'en parler avec un certain enthousiasme, c'est ce désir profond d'être pur, d'être comme un petit enfant, voyez, à moins que vous ne redeveniez comme un petit enfant, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est Jésus qui nous parle, qui me parle, qui vous parle, chers amis, à chacune d'entre vous qui m'écoutez en ce moment, parce que c'est pas moi que vous écoutez, hein, quand je dis « à moins que vous redeveniez comme des petits-enfants ». Non pas retomber en enfance, bien sûr, mais comme la pureté d'un petit-enfant. Jésus me dit « c'est possible, je veux faire de toi un petit-enfant pur, chaste, c'est pas beau ». Il y a une chasteté aussi dans le mariage, bien sûr. Il ne s'agit pas de pas s'unir sexuellement. Jésus n'a jamais été contre la sexualité. Bien, il est même tout contre, vous voyez, puisque j'aime beaucoup ce que disait le pape Jean-Paul II. Il n'y a pas de plus grand acte charitable qu'un homme et une femme qui s'unissent sexuellement dans l'amour pur pour toujours. Engagé dans le mariage qu'on appelle mariage naturel ou mariage sacrement. Vous voyez ? Bien sûr, il y a une chasteté d'enfant aussi, de se donner à son conjoint, de se donner à son épouse dans la pureté, dans la fraîcheur et dans l'ouverture à la vie en même temps, l'ouverture à la jeunesse de la vie, la jeunesse éternelle de la vie. L'acte sexuel est l'acte qui permet à l'humanité de rester jeune, justement, de donner des enfants à Dieu. C'est un acte de jeunesse. Voilà, chers amis. Sur ces paroles, qui j'espère vous auront touché, elles venaient de mon cœur, elles venaient aussi de ma passion, parce que j'ai un caractère passionné, je ne peux pas me refaire. J'espère que c'est une passion d'amour, en tout cas, et qui me lie au Seigneur et à tous mes frères et sœurs. Je vous souhaite de très belles vacances. Profitez de vos vacances pour vous ressourcer auprès du Seigneur et de vos frères et sœurs, dans la joie. Profitez de vos vacances pour vous convertir encore plus. Et si vous venez à Notre-Dame-du-Lot, vous allez vous régaler. Il y a de très belles sessions, mais il ne faut pas trop venir trop nombreux, parce qu'après on est trop nombreux. Mais voilà, si un jour vous venez ici, vous allez découvrir cette merveille de petite sainte, petite et grande en même temps, Benoît Rancurel. Et je demande avec vous, Benoît Rancurel, priez pour nous. Et prier pour Radio Maria et tous les auditeurs de Radio Maria. Amen et bonnes vacances. J'espère qu'on se retrouvera à la rentrée.
Chers auditeurs, c'était notre émission La Liturgie avec le Père François Marot. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.